Salut à tous, c'est Simon Dutin. Le golf prend une nouvelle dimension sur RMC. Toute l'année, la Dream Team sera présente tous les lundis pour commenter l'actualité du golf mondial. Notre volonté, c'est de vous faire découvrir ce sport formidable, de vous donner envie de jouer, de regarder, de nous écouter, bien sûr, grâce à nos partenaires U-Golf Blue Green et Callaway. Notre but, partager notre passion sans se prendre au sérieux. C'est la saison 3, épisode 11.
Le Practice RMC, Simon Dutin.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 11 du Practice RMC. Au programme, on va évidemment débriefer le Masters d'Augusta, l'intraitable, l'impitoyable Scottie Scheffler a encore frappé. Deuxième succès de sa carrière à Augusta. Est-ce avant tout sa victoire ou est-ce plutôt la défaite des outsiders? On va poser la question à nos copains dans un instant. On reviendra évidemment sur la magnifique semaine de Mathieu Pavon, 12e du Masters pour sa première participation. C'est le meilleur résultat d'un Français dans l'histoire de notre sport. Le titre de Ramucho Artola, notre prof de golf. Salut Ramucho.
Salut Simon, bonjour à tous.
Un patron de l'enseignement du golf Blue Green de Pessac. À chaque épisode, notre coach vous vient en aide. Il vous donne un cours particulier. Aujourd'hui, Ramucho, on parle de quoi?
Oh, on va faire des fantaisies sur un par 3. Voilà, on va essayer de l'attaquer au mieux.
Des fantaisies, oui c'est ça. C'est parce que des fantaisies, moi parfois j'en mets partout. On peut appeler ça des fantaisies.
Des fantaisies volontaires. On va dire.
Ah d'accord, volontaires. C'est Ben qui nous a laissé un message et que tu vas chercher à aider à scorer sur les par 3. Notre consultant U-Golf, Fabien Denoyan. Salut Fabien.
Salut Simon, salut la team, salut à tous.
Directeur général adjoint et directeur de l'académie U-Golf et Blue Green. On va évidemment débriefer la victoire de quelqu'un qu'on connaît bien.
Du King.
Tu me lottes de la bouche, mais bon, aujourd'hui, moi, je vais devoir rester un petit peu plus sobre. Mais bon, peut-être que j'interviendrai dans nos débats. Notre consultant RMC, Martin Coulon. Salut Martin.
Salut mon gars, comment que ça va bien?
Écoute, moi, après les victoires de Scottie, ça va toujours bien.
Tu peux, parce qu'il nous a fait une belle démo, on va en reparler, mais j'avoue, mon chapeau est bien bas déjà.
On va en reparler dans un instant. Un cadeau extraordinaire à vous faire gagner, les auditeurs, dans ce podcast. Franchement, restez avec nous parce que ça vaut vraiment le coup, ça vaut le coup toutes les semaines. Mais alors là, celui qui va l'emporter cette semaine, il s'en souviendra, il va le garder a priori très longtemps. On en parle un petit peu plus tard. Allez, pour l'instant, Scottie, seul sur sa planète.
William Clark pour poursuivre l'aventure. Sinon, c'est Scottie Scheffler qui va se succéder à lui-même. Oh là 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 là, c'est incroyable! Et c'est Scottie Scheffler qui va conserver son trophée. Incroyable finish, incroyable dénouement ici. Et à distance, il a entendu le grondement de la foule, la rumeur. Et Scottie Scheffler, numéro 1 mondial, vainqueur du Players, se succède à lui-même. Et c'est un moment d'histoire que nous vivons ici.
Le Practice RMC.
Scottie Scheffler, a encore mis une sacrée claque à la concurrence. Le numéro 1 mondial a enfilé hier sa deuxième veste verte en 3 ans, s'il vous plaît. L'Américain devient à 27 ans le quatrième plus jeune joueur de l'histoire à remporter deux majeurs après Ballesteros, Nicklaus et Tiger Woods, s'il vous plaît. Là encore, évidemment, lors du dernier tour, il n'y a pas eu de match, pas de suspense. Scheffler s'est promené, finissant à moins 11, à 4 coups du deuxième, Ludwig Åberg. 7 coups des troisièmes, Morikawa, Oma et Fleetwood. Le Texan n'a pas forcément eu besoin de forcer son talent. Il a juste attendu que ses adversaires craquent 1-1. Du coup, cette question pour vous, les copains, est-ce avant tout un triomphe de Scheffler ou une déroute de ses outsiders? Fabien.
Plutôt une déroute de ses outsiders.
Ramucho.
C'est un peu lié, c'est à la fois un triomphe et ce triomphe à cause ou par la déroute de ses soi-disant adversaires.
D'accord, tu vas nous démêler un petit peu tout ça, t'as quelques secondes pour mais y aller un peu clair. Martin, c'est un peu victoire de Scheffler, un peu déroute des adversaires?
Ah non, c'est pas du tout une déroute de ses adversaires, c'est une grosse et belle et très très grande victoire de Scottie Scheffler à ce Master. Je comprends même pas que vous vous posiez la question de se dire, tiens, c'est les autres qui ont perdu. Non, les autres, ils ont été dominés par Scottie Scheffler sur ce Master, je suis désolé.
Eh ben, tu gardes la main puisque tu es un petit peu par la force.
Ah ouais, parce que moi j'attends les arguments avec impatience.
Oui, par la force des choses, on rappelle qu'on a eu un débat il y a quelques semaines, il y a 15 jours ou 3 semaines sur Scheffler est-il le nouveau Tiger. Il y en a qui s'y sont votés à plus loin.
J'étais pas aussi différent. Pardon, il semblerait que tu étais contre. Non, pas vraiment. J'attends les majeurs. Donc, je t'en prie.
J'attendais avec très grande impatience, évidemment, ce majeur-là. ce Masters-là. Et pourquoi je dis que c'est un succès total ou quasi total de Scottie Scheffler, en particulier sur cette dernière journée? Bah parce que tout simplement, ils étaient quand même, les gars, 4 en tête après le 6. N'oubliez pas ça. Il y avait 4 joueurs en tête, dont Scottie Scheffler, à égalité.
Alors
bah et alors, ça veut pas dire que vous êtes en mode où il s'est baladé, il n'y a pas eu match. Il y a eu match de dingue, les gars. Vous êtes des grands foufous.
Je ne pense pas une seule seconde qu'il était... Les autres étaient peut-être un peu en surchauffe et que lui, même en ratant quelques coups ou quelques putts, il était quand même toujours en tête.
Bah, il a été en tête parce que lui-même s'est mis en chauffe à partir du 8. On n'a pas vu le même Masters ou quoi,
le
Fabien
début. Ah si, on a bien vu. Alors déjà, on a bien vu que le mec que vous critiquiez à un moment donné, parce qu'avec Simon, on l'avait déjà mis au sommet, vous un peu moins. Non mais je crois que déjà... que Scottie gagne, mais c'est tout sauf une surprise. En revanche, que derrière l'adversité soit un problème, ça peut devenir compliqué. Et le comparer à Woods comme on l'a fait, je crois qu'aujourd'hui, vous pouvez dire « Ouais, je crois que vous aviez raison, les gars. Il est woodsien, notre ami Scottie. »
Il y a un truc qui me fait dire oui, que quelque part, j'ai eu tort de ne pas m'emballer autant que vous. Et en même temps, c'est mon truc. Hein, je ne m'emballe pas tout de suite. Moi, j'ai besoin qu'on me prouve les choses. Ce que m'a prouvé Scottie Scheffler dans ce dernier tour en particulier, c'est qu'il a un côté peut-être pas woodsien au niveau influence et au niveau... il fait peut-être un peu moins peur. Mais dès qu'il commence à pointer son bout du nez en haut des leaderboards, comme il l'a fait au 8, au 9 et au 10... Comme par hasard dans ces moments-là, qui sont des moments évidemment clutch de ce Masters en particulier, puisque on a tendance à dire que c'est sur les 9 derniers que ce Masters se joue la grande majorité du temps, que le tournoi commence au départ du 10, mais là il a commencé quasiment au départ du 8 pour Scottie Scheffler avec ce birdie qui était fondamental à ce moment-là. Et en plus, lui, il a dit clairement en conférence de presse, il a dit, pour moi c'était quasiment le birdie décisif, c'est celui qui m'a fait dire, oui, ce Masters-là, personne ne va me le donner, il faut que j'aille le chercher en étant... agressif. Et il n'a pas été agressif, il a été giga agressif, quoi.
Je vais essayer de ne pas trop sortir de mon couloir, mais bon, on se connaît.
Sors de ton couloir, JC, n'est pas là, fais ce que tu veux.
On place le réfet Drouet, donc il faut que je garde un petit peu de sobriété. Mais je t'ai entendu le dire, Martin, moi, c'est quelque chose que je trouve symptomatique chez Scheffler. J'ai souvent eu l'occasion de dire ici, c'est un mec que ses adversaires n'aiment pas voir en haut du leaderboard le dernier jour.
Clairement,
d'autant plus.
Tu ne lui reprends pas l'os qu'il a dans la bouche, quoi. Il a cette qualité qu'un Koepka peut avoir lorsqu'il est en bonne position, mais ils sont pas si nombreux comme ça. Ça, c'est quand même très fort de rester en tête. Ramuzzo, il t'a impressionné hier?
Oui, je suis impressionné par sa victoire et la façon dont il l'a construite, mais je suis surtout impressionné parce que sur tout le champ, tout le monde s'est cassé les dents, tout le monde s'est cassé les dents au mauvais moment, au bon moment, en tout cas, mais Scottie Scheffler, c'est là où il est énorme, c'est que le parcours qui était proposé au Master cette année était juste injouable, très exigeant à tous les points de vue, de la mise en jeu jusqu'au dernier putt, du chip le plus compliqué que tous ont pu connaître. Simplement lui, il a survécu à tout ça, il a juste fait à un moment donné au deuxième tour un double bogey, il a de suite récupéré un eagle le troisième jour qu'il a remis en route. Donc en tout cas là, sa victoire, mais elle est fondamentale dans l'histoire du golf parce qu'ils ont eu à faire un parcours dantesque. Il n'a pas bougé et à l'arrivée, il a planté tout le monde avec 4 points d'avance. Donc avec un parcours qui était ultra, ultra, ultra exigeant. Donc ça ne l'a même pas atteint.
J'ai du mal à comprendre que vous puissiez être surpris que Scottie gagne ce majeur. Parce qu'il faut habiter sur une autre planète, une autre galaxie, parce que ça fait des semaines et des semaines, on vous dit, on le sait, que ce mec-là domine le golf mondial dans tous les secteurs. Et à un moment donné, on parlait de l'adversité. Mais c'est un peu comme au tennis, quand tu joues Roland contre Nadal dans une forme normale. Le mec, il est sur toutes les balles, il accélère quand il veut, il fait le point gagnant quand il veut, il remet, et t'as l'impression, et tu t'essouffles. Et quand tu joues, vous jouez au golf, vous savez ce que c'est, et toi qui aimes le match play, Martin, enfin, quand t'es face to face sur un dernier tour, mais il a fait imploser à un moment, parce que Morikawa, qu'est-ce qu'il fait? Il chauffe, il surchauffe, et au bout d'un moment, quand l'autre, il rate plus un coup, et alors extraordinaire, parce que le moment où Morikawa au 9 fait le double, il fait un coup de sand wedge, mais hallucinant, c'est le premier...
C'est le coup du tournoi pour moi.
C'est le premier mec, parce qu'il y en a un paquet qui sont tombés sur le deuxième plateau, sauf que lui, Qu'est-ce que fait sa balle? Elle zip et elle manque de rentrée.
Mais regarde,
il joue sur une autre place, il use tout le monde. Et ça me fait penser à un mec qui jouait pas mal au golf, qui a une quinzaine de majeurs dans la haute. C'est exactement la même chose. La seule différence, et je te rejoins, et j'espère qu'on va en parler un tout petit peu, c'est son charisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec fait pas rêver. Et hier soir, moi, enfin, on a un WhatsApp, on dévoile un peu les coulisses, mais c'était un peu... C'était un peu pénible à regarder, quoi.
On l'avait dit lors du débat, bon, si lui manque plus que le charisme, il aura quand même déjà le...
Tu nais avec ou tu n'es pas avec.
Il va faire un petit peu de média training. On va l'écouter, justement, l'Américain de 27 ans après sa victoire, parce que, bon, effectivement, il n'y a pas le charisme du tigre, mais il était détendu, dirons-nous, après sa victoire.
Oui, je suis content d'avoir réduit ma moyenne de coups de putting au 18. C'était bien de descendre à 5 coups et 2,5 pour ma moyenne, ce n'est donc pas si mal. C'est difficile d'exprimer à quel point c'est spécial pour moi, une semaine épuisante. Le parcours de golf était si difficile et le fait d'être assis ici, porter à nouveau cette veste et de pouvoir la ramener à la maison est extrêmement spécial.
Messieurs, qui veut y aller là, parce que ça parle beaucoup de stats hein, dans les interviews après le parcours, Martin ?
Bah, je ne vais pas forcément revenir sur une notion de stats, même si elles sont de plus en plus impressionnantes. Elles l'étaient déjà avant le Masters, évidemment. Encore une fois, loin de moi, je crois, et même je mets Ramucho dans la même besace, loin de nous l'idée de dire que Scotty Scheffler, c'est pas un joueur extraordinaire. De là à dire qu'il fallait s'attendre absolument à le voir gagner. Tu connais très bien le golf, beaucoup mieux que moi, Fabien, et encore
non,
en particulier le golf
dit,
de haut niveau.
C'est
pour
pas
dire...
grave de dire que vous êtes trompé, mais vous avez quand même dit qu'il était presque normal.
L'idée, c'était très important, et moi, c'est là où je le trouve très impressionnant, et je le trouve toujours aussi impressionnant, et peut-être encore plus qu'avant, c'est qu'il est inévitable. Il devient inévitable. Et dans le golf de très haut niveau, surtout ces dernières années, c'était pas forcément évident de prédire l'avenir à ce point-là, comme ça devient de plus en plus presque facile et presque trop facile de prédire que Scotty Scheffler non seulement va être in contention, mais en plus s'il a la bonne attitude, ce qui est le cas, ça fait 26 mois
plus, et d'autant plus que Scheffler, je le répète, j'ai déjà dit, il avait jusqu'à la Ryder Cup, pas la dernière, il y a 4 ans, il avait la réputation d'être le runner-up, d'être toujours bien placé sur le podium, tout ça. Il n'arrivait pas à gagner. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais certainement, un déclic. Et là, c'est un ogre. Il n'arrête pas. C'est colossal.
Alors, depuis octobre 2022, Scotty Scheffler, c'est 77 semaines qui sont passées. Il n'a pas joué chaque semaine. Il a fini une seule fois dans les tournois qu'il a disputés depuis octobre 2022 en dehors du top 25. Voilà, c'est quand même, ça vous place quand même la régularité du bonhomme, c'est absolument prodigieux.
Non, mais sur les 10 derniers tournois, le mec ne quitte pas le podium quasiment.
Mais il y a mieux, alors je fais une parenthèse hein, par rapport au perf, il y a un petit mieux actuellement dans le golf mondial que chez Fleur, c'est son acolyte chez les filles, c'est Nelly Korda.
Ah oui, mais...
qui a fait 4 victoires sur ses dernières sorties, alors que Scotty, le pauvre, il n'a que 3 victoires sur ses dernières sorties. Voilà, c'est juste pour mettre en exergue également le golf féminin qui...
Mais t'avais un défi là de placer
pas du tout.
Vous voyez la tête de Fabien.
Mais en revanche, bravo hein.
Ben oui, Ramucho, on parle de tous les golfs dans le practice, mais évidemment, la force de l'émetteur Scheffler, on avait peut-être un peu anticipé ce débat, est-il le nouveau Tiger ? J'entendais dans les médias américains un consultant... dire depuis Tiger, on n'a pas vu un mec qui se sépare aussi facilement du reste du champ des joueurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il appuie sur le bouton de l'ascenseur et il se sépare du champ. C'est pas
c'est ce qui est
un
arrivé,
coup
hier.
Et puis l'autre revient. C'est qu'au moment où ça où il y a la séparation, on le revoit plus.
Ouais, puis tu l'as dit, le coup le plus important, enfin le coup de massue, déjà pour Morikawa parce qu'il partageait sa partie, donc c'est encore plus dur. Mais les mecs évidemment regardent les leaderboards. Quand bien même, ils te disent non, je ne regarde pas vraiment. Et qu'à un moment donné, tu sens que le mec, il lâche pas de coup. Non seulement il lâche pas de coup, mais il va chercher un birdie où seul, au berg, je parle des leaders, fait le birdie sur un putt
au 9, hein,
extraordinaire, mais quasiment miraculeux, parce que si jamais elle ne prend pas le trou, elle finit sur le parking de l'aéroport d'Atlanta. et c'est difficile. Et ce qui est hyper difficile, c'est qu'il ne rate pas un fairway. Je ne parle même pas des... C'est compliqué de jouer contre un mec avec une telle régularité. Donc, ouais, les mecs sont usés. Et encore une fois, on va pas faire la promo de ce qu'on a dit, redit, que Scotty est différent. Et il le prouve encore une fois.
Et moi, ce qui m'impressionne, ce qui m'a vraiment impressionné dans le jeu global de Scotty Scheffler et surtout sur ce dernier tour, c'est sa capacité, peut-être pas à hausser son niveau de jeu, c'est, parce que je pense pas, j'ai pas eu la sensation qu'il ait totalement haussé son niveau de jeu, mais c'est de trouver un niveau de jeu à un moment déterminant, c'est-à-dire ce passage 8-9-10. Mais avec ce, moi pardon, ce,
il a éteint la lumière.
Ce coup du 9 là, ce coup de, c'est un lob wedge qui joue au 9, hein, parce que je sais pas si tu te rends compte, il met 320 mètres au drive au 9 et il met un coup de lob wedge quasi donné qui il a failli rentrer. Donc à ce moment-là du tournoi, c'est là où tu te dis non mais attends, c'est là où la petite porte du garage s'ouvre pour dire si tu vas ou non aller chercher.
Alors,
la veste verte, tu vois, tac, c'est
je
là.
Je trouve
où,
que ta remarque est hyper intéressante parce que la plupart des mecs qui ont joué ce trou, alors c'est vrai que quand tu connais pas le parcours, nous on a eu cette chance. Alors moi je l'ai vu et Martin l'a joué, mais quand tu vois à la télé et quand tu le vois en vrai, je vous assure que l'avant-green du 9,
très haut,
c'est une pente raide. Donc en fait, tu ne veux pas la jouer courte parce que si tu la joues courte, tu prends le risque de te la reprendre dans les pompes et de rejouer un troisième coup. Donc par instinct, bah, tu prends un club un peu plus long où tu mets un petit peu plus de jus pour aller chercher. Si tu ne mets pas trop de jus, tu restes sur le plateau. Et sinon, lui décide parce que c'est un stratège hors pair. Et je trouve, là tu en parles et on n'en parle pas assez souvent. Le mec dit, ok, j'ai 85 mètres avec mon lob wedge. Je vais peut-être en faire 87, 88 et je le joue à fond. Et comme on sait que techniquement, plus on met de vitesse, plus on va mettre de spin à la balle, donc il prend le risque de l'accélérer fort. Et ce qui arrive, la balle zip et il met beaucoup de backspin.
Mais il la pose au centimètre près où il veut la jouer sur le 9. Pour moi, c'est le coup du tournoi. C'est parce
il n'y a pas beaucoup de coups qu'il pose où il veut pas. Hein.
Non, ça c'est sûr, on le rappelle.
Non, il y a le coup du 12, son coup de fer. Oui. Hein, pour moi, le plus déterminant. Quand vous regardez bien, au 12, ils ont tous essayé de jouer un fer neuf, un peu bricolé. Et on voyait que ces balles ne tenaient pas vraiment, et ce qui est assez rare sur le 12. Et on a vu Omar, on en a vu d'autres. Et lui, et c'est là où je trouve qu'il est woodsien, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas emmerdé. Il a dit, donne-moi mon pitch. Il a joué le milieu du bunker, ce qui est assez loin du trou. Il l'a posé exactement où il voulait. Il a pris ses deux putts et il a dit merci monsieur dame et là je suis parti pour gagner.
Ouais, mais c'est ça qui est hyper hyper et presque étonnant. Enfin, ça arrive encore à m'étonner. C'est bizarre parce que on commence à avoir l'habitude de ce bonhomme là qui contrôle ses distances comme c'est pas permis. Mais moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant et encore plus redoutable, c'est qu'il s'est pas caché en fait. Parce que tu peux faire 3 birdies 8, 9, 10 comme il a fait, voilà. Et d'un seul coup te dire, parce que c'est le moment clé du tournoi, tu rentres dans la main corner, tu prends en plus ton petit bogey au 11, qui est un peu le tarif, j'ai envie de dire, à ce moment-là du tournoi, et il s'enflamme pas, et non seulement il s'enflamme pas, mais il continue à dire, il faut que j'agresse de façon intelligente, parce qu'il a dit un truc en conf de presse que j'ai trouvé tellement pertinent, c'est pas étonnant qu'il ait déjà 2 vestes vertes, c'est qu'il a compris comment jouer ce tournoi, c'est-à-dire et jouer ce parcours, c'est que il a dit, je sais que c'est un parcours qu'il faut respecter, mais c'est aussi un parcours qu'il faut savoir agresser. Et il a clairement respecté le parcours en l'agressant. C'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant et fou dans ce dernier tour de Scotty Scheffler.
Et il a continué à l'agresser alors qu'il avait 4 points d'avance en plantant, en plantant le 14. Il se met donné, il n'a plus qu'à la pousser. Et birdie au 16.
Et quand on sait à quel point ce deuxième coup du 14, il est tendax, c'est redoutable. Quoi.
Incroyable.
N'est-ce pas ?
Grand monsieur.
Oui, alors on parlait de son charisme, mais bon, ça reste quand même enfin, si vous me permettez les expressions, c'est un tueur silencieux, quoi. C'est un sociopathe, quoi. Il fait peu de gestes de manifestation de joie. On l'a vu serrer le poing là, parce que lorsqu'il fait eagle samedi, je sais plus exactement sur le 13.
Ouais.
Mais je veux dire, ça reste quand même d'une sobriété extrême. Alors que c'est vraiment un tueur au sang glacé dans les veines, quoi.
Ça me gêne un peu.
Tu aimerais qu'il soit un peu plus expansif.
Ouais, moi je lui demande pas. À la limite, il est ce qu'il est et moi j'adore ce qu'il est déjà parce qu'il a un swing mais totalement incroyable.
Ce swing signature,
en
parlait.
Et je trouve ça tellement fabuleux de swinger comme ça, de la striker comme ça. Ce qu'il faut quand même savoir, pourquoi il est autant régulier, parce que c'est le mec qui centre en pourcentage. Ouais. Le plus la balle au milieu de la face, donc c'est la raison pour laquelle il rate très peu de coups. Mais avec effectivement
une esthétique et un swing qui n'est pas du tout orthodoxe, mais c'est ça qui fait la beauté. Et moi, j'ai envie de parler de son charisme là-dessus. En revanche, ouais, il dégage pas grand-chose, il montre pas réellement. Alors hier, moi j'ai cru que quand il a gagné hier, là, il a crié, j'ai cru qu'il avait pris une balle d'un mec qui était encore sur le parcours. Mais non, pas du tout, il venait de gagner son deuxième master. Ouais, c'est un tout petit peu, c'est peut-être ça, mais en même temps, il est ce qu'il est, et peut-être que c'est un grand champion à cause ou grâce à cette attitude.
Ouais, mais regarde, un champion comme Vijay Singh, qui a quand même réalisé une année en 2000 ou 2001, je ne sais plus.
2000.
Pile à la période où Tiger Woods était un peu en chauffe, il gagne 9 tournois du PGA Tour. C'était pas non plus le plus grand gars expansif de la Terre. C'était pas non plus le plus grand funky man du circuit. Et pourtant, c'était un gars, et c'est toujours un gars qui a d'ailleurs passé le cut à plus de 60 balais, qu'on respecte infiniment. Je pense qu'il est de ce calibre-là.
Ouais, mais il était charismatique. Tu l'as vu de près, ouais. Singh, enfin, on a eu la chance aussi de voir. Ouais. Il dégage un truc.
Ouais, parce que c'est physique, lui, ouais. Il est grand, mais Scotty Scheffler aussi, c'est un grand bonhomme. Il a un swing qui est ce qu'il est, mais pareil, quand il frappe la balle, ça fait pas forcément le même son que les autres, quoi. Enfin, il se passe un truc.
Non,
quoi.
Mais ce qui est toujours un peu. Enfin, moi, ce qui me dérange, c'est qu'en conf, quand il. Alors, ça va être un peu politique, un peu.
Mais vas-y.
Quand il fait allusion à Jésus.
Ah, bah, c'est le bon ricain, hein. Il n'y a pas de.
Ah, c'est le, voilà, le pasteur chez
moi aussi, je suis croyant, j'ai une grosse croix autour du cou. Donc, mais il y a un moment donné, je ne suis pas certain que ce soit Jésus qui swing la balle, mais plutôt lui. Donc, c'est effectivement, c'est très américain, très évangéliste, très. Mais c'est quand même un immense champion et c'est pas fini. Et ça n'est pas fini. Moi, je vous annonce qu'il peut faire. Je vous l'annonce.
Ah, ça y est, l'annonce.
Allez, il peut enfiler les 4 le majeurs cette année.
Alors, on rappelle, le dernier à en avoir gagné, c'était 3 dans une saison, c'est Tiger.
Et le quatrième l'année suivante.
C'est le fameux Tiger Slam. 4 glissants sur une année.
Ça vous paraît réalisable, les copains, ou Fabien s'emballe?
Pour une fois, on peut le suivre parce qu'il domine tellement de la tête et des épaules. Les autres ont pris une telle claque derrière la nuque que quand il va se pointer au départ, les mecs qui vont partager la partie de Scotty, ça va être un petit peu comme Tiger à l'époque. Et ben, ils seront peut-être pas dans leur assiette et ils n'auront peut-être pas toutes les armes pour faire face à sa suprématie.
J'ai envie de voir un truc comme ça parce que ce serait historique et puis ça, quelque part, moi, ça me clouerait le bec à jamais sur Scotty Scheffler, j'ai envie de dire. Après, je vois, il y a quand même si la densité de la concurrence est moins folle que les quelques années précédentes.
Et pour moi, il est plus fort que Tiger.
Talent pur,
en talent pur, non, mais si vous vous souvenez bien des victoires de Tiger en majeur ou pas, Tiger, il avait comme signature parfois n'importe où. Oui. C'était un peu du Ballesteros et il allait chercher des recoveries, il allait chercher des putts pour gagner des majeurs, ouais. Ou des chips ou des. Enfin, je sais pas
le
si
chip,
vous
voulez
dire,
mais
Scheffler, il a un truc.
À part un British.
Non, mais il a un truc pour lui. Et on en a parlé, c'est ses stats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il se met à putter, mais ne serait-ce que normalement, même pas au-dessus des mecs. Et le jour où il putte au-dessus des mecs, mais il finit avec 12 wagons de...
On l'a déjà dit, le jour où effectivement, au stroke game putting,
mais là,
il va être devant.
Il gagne en ayant un stroke game.
On n'arrête pas de le répéter, mon cher Fabien. Le jour où il va putter dans le top 10 du champ des joueurs, personne ne le reverra parce que tu me fais une bonne transition. Il est évidemment, là, on parle à ceux qui aiment les chiffres, il est évidemment leader de la saison au stroke gain total. Il l'était déjà avant le tournoi. Il est leader stroke gain tee to green. Et leader stroke gain approach the green. Et entre-temps, il est deuxième stroke gain off the tee. Donc, Yako Putting, où il est encore...
Non mais heureusement, j'ai envie de te dire.
Ah ben, ça donne un petit peu d'espoir.
C'est pour ça que je pense qu'il peut. Parce que les parcours de l'US Open, de l'USPGA... Et peut-être le British, ça sera peut-être le seul parcours où ça peut être compliqué.
Ça dépend de la météo.
Oui, mais comme ça fait partie intégrante du British. Mais sinon,
j'allais vous demander, vous qui connaissez les parcours sur lesquels vont se dérouler les majeurs.
Pinehurst, fantastique.
Pinehurst, a priori, il a tout ce qu'il faut pour gagner à Pinehurst.
Ah, ouais. Ouais. Dans le Kentucky aussi.
Ouais, c'est typiquement un parcours pour lui, c'est un parcours de ball striker absolu. Après, moi, je suis un peu plus dubitatif, même si, encore une fois, ses stats sont phénoménales. Enfin, ça devient un peu n'importe quoi, même limite. Tu te dis, mais il joue à la PlayStation ou quoi, le type Moi, j'ai toujours une toute petite interrogation, si j'articule c'est mieux, sur son putting, en particulier son putting dans les moments un peu clutch.
J'espère qu'il vient de te le prouver, là, quand même.
Il me l'a prouvé. Bah, il m'a surtout prouvé qu'il avait une... Enfin,
putain, le mec, il a rentré même... des putts
ouais,
incroyables.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il s'est quand même appuyé, comme d'habitude,
sur les greens les plus difficiles
du
monde.
Sur une grande qualité de contrôle des distances et de contrôle des profondeurs. Non, il s'est Martin, jamais laissé des putts trop compliqués, quoi.
Il rentre des vrais putts.
Il a rentré des putts. Il fait pas 20 birdies, un eagle voilà. sur la semaine pour rien, c'est évident.
Non, mais le chip du 18, c'est hallucinant, hallucinant.
Et il y a un autre truc, alors je sais pas si vous, ça vous parle. Moi, c'est son caddie. C'est Ted Scott
ouais.
qui a quand même maintenant 4 masters dans la besace parce qu'il était le caddie de Bubba Watson. Et c'est quand même assez marrant d'avoir ces deux personnages-là qui sont quand même totalement opposés parce que Ted Scott, c'est quand même un gros trublion qui fait des TikTok dans tous les sens et qui est vraiment un mec marrant pour l'avoir rencontré 2-3 fois. C'est un mec qui blague tout le temps. Je me demande si c'est pas aussi l'arme fatale de Scottie Scheffler parce que depuis qu'ils sont ensemble, bizarrement, ça marche très très bien pour
mais
lui.
Mais c'est depuis qu'ils sont ensemble qui
c'était
qui
pour gagne. Pas dire, tu vois ce que je veux dire.
Et effectivement, qui avait gagné avec Bubba, donc lui, il est chez lui à Augusta. Ted Scott qui certainement doit faire des envieux parmi ses confrères Cali
ouais,
parce qu'on rappelle 10%, ouais. 10% des gains Ted Scott il a gagné déjà 1,5 million de dollars depuis le début de l'année hein,
c'est le meilleur caddie
mais quand on aime on ne compte pas messieurs non
ouais, mais pas, c'est non. surtout le meilleur caddie du monde donc tu as le meilleur caddie du monde associé au meilleur joueur du monde bah, tu,
mais
forcément
en plus,
tu fais des belles étincelles
en plus
quoi.
Je vais vous dire il doit être en meilleure forme parce que quand tu caddayais Bubba vu les lignes qu'il prenait et les saucissons qu'il pouvait mettre
ouais mais t'imagines qu'il a réussi à faire gagner à ce joueur là ce joueur fantasque ce joueur exceptionnel dans la vision du golf qu'il a qui était à peu près l'opposé de Scottie Scheffler, il a réussi à les faire gagner deux Masters.
Et qui lui aussi avait un swing un peu fou, ouais. hors norme.
Ouais. Ouais. Ramucho, remarqué, allez, ils ont beaucoup communiqué avant beaucoup de coups, avant même qu'ils soient en difficulté, bien placés. On a vraiment l'impression, c'est une réalité, c'est son vrai partenaire. Et souvent, il prenait du temps pour analyser le coup et choisir le bon club. Et d'ailleurs, quelque chose qui ne trompe pas, à la fin, il a étreint, mais comme jamais, un joueur par rapport à son cadet.
Mais après il a attendu surtout. Oui. Moi, j'avais quand même rarement vu. C'est-à-dire que tu fais bien de le dire. Il y a effectivement, ils sont
gros câlin.
Il y a gros câlin. Scottie part parce que pris par l'émotion, il embrasse ses parents, il embrasse sa famille, ses amis. Et au bout d'un moment, il dit mais attends, il me manque un truc. et il manquait. Et on l'entend dire Ted. Et il attend. Et je trouve ça magique parce qu'il voulait faire profiter. Ouais. Vous avez vu ce rail de gens qui l'attendaient, qui les acclamaient. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et hyper sympa de sa part.
Petite précision, on parlait des stats, hein, les progrès à faire, évidemment, ils sont au putting. 96e au stroke gain putting sur la saison.
Dément,
vous imaginez la marge qu'il lui reste.
Dément.
Le jour où il va putter. Tu m'offres une transition, Fabien, parce que on parlait du charisme, Scheffler. Alors, l'Amérique aime ses champions, elle aime ceux qui gagnent, mais ils étaient plusieurs en contention lors de ce dimanche au Masters. Et la foule, hier à Augusta, elle était plutôt derrière Max Homa, tout de même. En tout cas, dans les cheer-up, dans les acclamations. On avait presque l'impression, quand Scheffler rentrait, c'était « Ouh, ça va être compliqué d'aller le chercher ». Alors que Homa, bon, qui n'en a pas rentré assez, mais on sentait qu'il pouvait électriser la foule. C'est pour faire la transition sur ceux que Scheffler a battus.
Ouais, mais il y a une raison, parce qu'on est en 2024. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe en 2024? Il y a les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que fait Max Homa sur les réseaux sociaux? Il est à fond, il fait un peu le clown, il sort 2-3 trucs. Donc, il s'est créé une communauté. Et j'ai envie de dire même une très grosse communauté. Et ce lien que l'on crée aujourd'hui par les réseaux sociaux, ça se voit quand les mecs sont en tournoi. Et Scheffler, qui est effectivement très famille, parce que moi, je suis certain, pardon, je fais une petite digression, c'est que sa femme accouche 10 minutes avant son départ. Les gars, le mec, il dit...
Il l'avait dit,
ouais,
il l'avait
mec,
annoncé.
Donc, c'est quand même... incroyable.
Pas certain qu'il aille jusqu'au bout.
Ah non, mais c'était...
Les médias américains disaient s'il prend le départ du 1, il fera 18
trous. Non, j'ai dit 10 minutes avant.
Non, bien sûr, mais
j'ai
Ramucho dit, se posait la
10
question.
Donc, pour revenir sur Romain...
Ah, t'imagines s'il a 4 coups d'avance au 17 et qu'il dit « Non, j'y vais parce que ma femme a coup. »
Je vais te poser une question et je la pose à Ramucho et Martin. Vous avez envie de ressembler à Scottie Scheffler dans son attitude? Est-ce que vous n'avez pas plus envie de ressembler à Max Homa?
Bah, bien sûr.
Plus
ouais, et Max Homa, il a pris une,
donc je t'ai répondu.
une dimension tout autre depuis la Ryder Cup, où il a surnagé par rapport aux autres équipiers. Et surtout, je ne sais pas si vous en voulez, le match contre Fitzpatrick, où il prend la décision de se dropper pour gagner son match. Enfin, il a été mais fantastique depuis la Ryder Cup. C'est pour ça qu'il est très apprécié, très aimé, parce qu'en plus, il est assez cool, il est assez neutre dans son comportement. Et puis en plus, il y a un timing, tu vois. Par rapport à Scheffler, tu vois, c'est les opposés, le timing de Scheffler qui rentre dedans et qui manque de se casser la gueule, alors que Homa, c'est dans de l'huile, dans du beurre, ça swing, et que ce soit un sandwich en driver, et il a strike en plus à 300.
Et puis toutes les images sont importantes, on se rappelle, je crois que c'est le deuxième jour, en fin de matinée, des foursomes, oui. Un des rares points pour les États-Unis, il chip depuis le bord du green, avec la réalisation, on voit la balle qui va vers le trou, et lui, il sort du champ, il sait que la balle va rentrer, il enlève la casquette pour aller serrer la main, c'est extraordinaire, il sait que la balle va rentrer, et donc il a remporté son match. T'achètes, toi, le charisme d'un Max Homa ?
J'achète d'autant plus le charisme d'un Max Homa que c'est un bonhomme en conf de presse qui est assez marrant. On va dire que c'est un bon client pour nous, les médias au sens large du terme, mais c'est quand même le gars qui a déclaré, après s'être pris quand même une petite tôle de se prendre les pieds dans le tapis au 12, plus de se prendre le bogey au 17 pour finir, il finit quoi, 3e, 4e, je sais même plus. Donc c'est quand même un de ses meilleurs résultats en majeur. Il arrive quand même à te dire, ouais, ce soir, ça fait longtemps que je m'en suis pas collé une grosse, je vais pas faire semblant. Ah
oui. C'est pour ce soir, il a dit.
ok, mec.
Ouais, c'est
là,
ça qui est excellent, en fait.
Oui. Ça doit plaire au public.
Bah, ça s'appelait beaucoup plus qu'un Scotty Scheffler qui vient de gagner le tour. En étant clinique et en faisant une démonstration limite inhumaine de niveau de golf, en faisant les choses tout à fait normalement, mais en fait, la seule chose que j'attends, c'est de rentrer chez moi le plus vite possible. Ouais, funky, mec, on va se marrer avec toi.
Alors, moi, je vais te faire une passe décisive ou une transition que tu ne pourras pas rater. Le mec qui a été le plus applaudi du tournoi et hier,
c'est Max Homa,
a fini dernier.
Alors, on va.
Non, mais si on parle d'applaudimètres, si on parle d'engouement, si on parle de folie, si on parle de ferveur, on doit
on va évidemment
effectivement parler de Tiger Woods.
On va parler du gros chat dans quelques instants. Quelque chose me dit que l'un d'entre vous a choisi de le balancer dans notre rubrique Balance ton golfeur. Avant ça, les copains, très rapidement, un mot sur celui qui disputait son premier majeur, qui finit deuxième, Ludwig Åberg. Quelqu'un a été impressionné
Non, pas
non,
du tout.
Mais je ne sais pas, parce que vous me regardez comme si vous étiez surpris qu'on en parle.
Juste pour bien
Ludwig Åberg, on rappelle, premier majeur. Ouais. Il avait disputé la Ryder Cup sans avoir remporté un majeur.
Et
il termine deuxième.
Il était 700e mondial quand il est passé pro en juin 2023. Et le gars, au moment où on est en train d'enregistrer cette émission, le lendemain du Masters, il est 7e mondial. Ouais. Tu vois la progression.
Moi, j'ai un truc qui me gêne chez Åberg. Mais je vous laisse, messieurs, j'ai un truc qui me dérange un peu.
Moi, ce qui me dérange pas du tout, c'est l'attitude du bonhomme. C'est un gars, on voit, qui prend un plaisir fou à évoluer à ce niveau-là, qui prend un plaisir fou à taper des coups de golf. Même quand il prend un double bogey au 12, au 11, pardon, qui fout sa balle dans l'eau, parce que c'est l'erreur un peu que font quasiment tous les débutants d'être un tout petit peu trop agressif et de se prendre la petite rafale et plouf dans l'eau, double bogey, merci, à bientôt. Le gars sourit. Il sourit. Ouais. Tu disais, mais attends.
Jaune, mais il sourit.
Ouais, mais il
non,
sourit.
Mais vas-y, Ramucho, parce que je me servirai des propos demain.
Il va prendre une balle perdue, je sens.
Et les flèches
Åberg
qu'il envoie, et l'attitude qu'il envoie, et pardon, mais finir deuxième de ton premier Masters, alors que, enfin, il y a un an, t'étais même pas pro, t'étais très bon en collège amateur.
Numéro 1, non, enfin, numéro 1 amateur.
T'étais extrêmement bon, t'étais attendu au tournant, mais pas vraiment. Enfin,
non, oui.
C'est fou, quoi.
Oui, mais alors là, Martin, pour rajouter à ce que tu dis, c'est que, bon, certes, on regarde les Américains, mais il est quand même attendu comme un phénomène de foire à chaque fois, quoi. On se dit, qu'est-ce qu'il
va nous
faire ? Donc, il a énormément de pression sur les épaules.
Et justement, ça, c'est admirable.
Toi, tu l'aimes beaucoup, Ramucho.
Ah bah oui, ça glisse dessus.
Vas-y, Ramucho, parce que je suis excité pour répondre.
Depuis la Ryder Cup, il est attendu à chaque tournoi, qu'est-ce qu'il va faire ? Et il avance, il n'y a pas de temps mort pour l'instant. Il n'y a pas de temps mort. Il a peut-être raté un cut en début d'année, mais ça s'arrête là. Lui, il continue sa route, il reste le même surtout, tu vois, il reste le même. Ce n'est pas un mec que tu sens habité par la pression ou par la peur, mais il joue son jeu. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très, très caractéristique, hein. C'est un des plus rapides à jouer. Il se pose devant la balle,
ah, on aime
d'œil,
beaucoup ça.
Et il exécute. Voilà, donc il y a ce côté naturel qui est très rafraîchissant.
Alors moi,
il a fourmi ses armes, attention.
Alors, non, en fait, il est jeune, très jeune, mais je lui ai trouvé une reconversion en France, à la fin de sa carrière, chez TF1, parce qu'il pourra faire la roue de la fortune ou la famille en or, parce qu'il est toujours en train de sourire. Ça me fait clairement penser aux années 90-2000 où il fallait quand même avoir un sourire. Non, mais tu peux pas. Et à un moment donné, le mec, t'as envie de lui dire.
Ah bon, mais il n'y a que toi. Hein.
Oh, Kiki. Non.
Il est trop expansif. Il est...
Mais c'est pas expansif. C'est qu'à un moment donné, quand tu joues au golf, Simon Dutin, déjà toi, quand tu fais un par, tu gueules. Quand tu fais un double, moi, ça me dérange plutôt parce que qui sourit une fois, qu'il élimine le truc quand il rate, ok. Mais il y a un moment donné, mec, tu es certainement hier le seul en capacité à aller chatouiller Scottie Scheffler. Et je partage ce que tu as dit, Martin, mais moi, j'ai une autre lecture. Moi, j'aurais aimé que le mec, ok, il rate, il machin, un petit rictus, et qu'on voit la tronche d'un carnassier, d'un mec qui se remobilise. Alors là, il fait des sourires à tout le monde, le mec, il vient de planter, de
bloquer. Il fait quoi dans sa foulée? Attends, parce que tu sors quand même d'un gars, il fait son premier Masters, il met moins 3.
Il a arrêté le premier, il a fait sa première Ryder Cup, il a arrêté, il est plus premier. Aujourd'hui, Simon l'a dit, aujourd'hui, le mec, mais intrinsèquement, c'est fabuleux ce qu'il fait. Il rate pas un fairway, t'as l'impression que c'est même, vous voulez que je vous dise, c'est aussi impressionnant qu'un Scheffler. Mais ce qui lui manque, pour l'instant, il est peut-être encore un peu tendre, c'est ce truc qui fait la différence entre un immense champion et qui va gagner et un très bon joueur de golf. Et pour moi, aujourd'hui, intrinsèquement, c'est extraordinaire, mais il lui manque ce truc-là pour aller chercher la victoire.
Allez, Rabuccio et Martin me font des signes très courts. Ah ben les gars, vous aurez moins de temps pour balancer le golfeur
très rapidement.
Après, bah, hein.
je réponds à ça parce que on n'a pas vu le même Masters. Ludwig Åberg, premier Masters, premier majeur en carrière.
Tu as raison de le signaler.
Ok, je le redis, c'est important. Encore une fois, amateur, il y a un an, machin bidule. Le gars te fait moins 3 sur les 9 premiers d'Augusta le dimanche. Ok, il se prend les pieds dans le tapis comme tous les débutants au Masters se l'ont pris.
Sauf ceux qui l'ont gagné pour la première fois,
Il est toujours in contention et qu'est-ce qu'il fait? Il fait par au 12, alors qu'il pourrait se foutre dans la. Il fait birdie 13, birdie 14. Excuse-moi. T'appelles pas ça une réaction de champion, toi?
Rabuccio, je parlais de l'attitude. Vas-y, Rabuccio.
Je ne voudrais pas que l'on termine sans parler d'Augusta cette année.
Oui, alors ben oui, c'est dans le conducteur. Peut-être qu'on va en entendre parler dans Balance ton golfeur. On a tout prévu, voilà, évidemment. Puisque, comme d'habitude, on va distribuer des caresses, des gifles, ou les deux, comme avec Ludwig Åberg.
Le practice RMC.
Courbette !
Balance, balance !
Mais tu l'emporteras pas dans le trou !
Ça y est, il l'a acheté !
Allez !
Il l'a acheté !
Balance ton golfeur.
Vous connaissez cette rubrique, vous en avez pris l'habitude, on se régale à choisir chaque semaine un golfeur à balancer, alors à porter au nu ou à foutre à la poubelle. La poubelle recyclable, évidemment, rien n'est jamais définitif dans Balance ton golfeur. Ton golfeur ou ton institution, justement, Rabuccio nous a fait la transition. Fabien, il a un petit peu dévoilé. Toi, tu veux balancer qui? Tu veux balancer quoi cette semaine?
Je veux balancer le plus grand, le plus fantastique, le plus mythique, le plus merveilleux tournoi et parcours de golf qu'est Augusta National. On a fait une émission sur les nouvelles balles. Mais quand vous avez un parcours préparé, qui n'est pas le plus long, les positions de drapeau, les éléments, il faut bien le dire, le vent, mais ce parcours a laissé seulement 8 mecs sur 89 en dessous du par. Et c'est la première fois où ça fait très longtemps que devant ma télé, les 3 premiers jours, j'étais en train de me dire, mais les mecs, mais ils rament tellement, ils ont tellement l'air épuisés dans la tronche, ils vont tellement chercher des ressources. Donc ça prouve quoi? Ça prouve qu'il faut arrêter de penser à rallonger les parcours, ça prouve qu'il faut arrêter de vouloir changer de balle, que avec une météo, certes un peu capricieuse, mais avec une préparation, avec une intelligence de position de drapeau, eh ben ça met tout le monde d'accord. Et ce parcours, je me lasse. Hier, je vous l'ai dit, moi, je me suis un peu à un moment donné ennuyeux, mais je me fais tellement du bien à regarder ce parcours, à regarder les mecs en chient, et parfois, ça me fait plaisir.
Martin, toi, tu as joué, on le rappelle à nos auditeurs, tu as joué ce parcours, tu avais été tiré au sort.
Oui, mais bon, c'est pas pour ça que je voulais intervenir.
Mais bon,
j'ai joué juste ça. T'as vu les étoiles. Bref, c'était pas du tout ça. Moi, il y a un truc qui m'a un tout petit. J'abonde complètement sur ce que tu dis sur le côté. Il y a un moment, je me suis demandé si c'était pas un US Open sans ref. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, évidemment, les conditions météo des deux premiers jours ont joué énormément dans ce sens-là. Mais moi, il y a un truc qui m'a un tout petit peu dérangé. Je sais pas si ça vous l'a fait. Aussi, j'ai trouvé dommage justement le fait d'avoir allongé le 13 et le 15 parce que je sais pas, moi j'adore justement voir.
Ouais, Martin, tu as raison.
Il y a beaucoup de lay-up, quoi.
Ça ne t'a pas échappé.
Alors, lay-up, Martin, pour certains de nos
pardon,
auditeurs.
On joue pas en surrégulation, c'est-à-dire qu'on va pas attaquer le par 52, mais on le joue sagement en 3, tac, on joue un coup de placement, etc. Et en particulier,
Martin, ils ont bougé les départs. C'est-à-dire que les départs du premier jour, du deuxième, enfin les marques de départ, il y a le départ, c'est une grande bande de gazon. Et en fait, c'est vrai qu'on doit aussi penser aux gens qui ne jouent pas au golf et qui nous écoutent. Et en fait, ils ont bougé. Et hier les petits départs étaient totalement devant. Donc, ils font attention au spectacle. Donc, quelque part, je ne suis pas certain que le parcours dans sa longueur, il n'a pas été joué dans sa longueur maximale.
C'est aussi le vent qui était toujours plutôt défavorable sur le 13 et le 15. Hein, donc, si évidemment ils vont pas chercher très peu à le choper. Et ceux qui cherchent à l'attraper quand même, ils se retrouvaient dans des conditions, comme l'a signalé Mathieu à son interview, ils dépassaient tout petit peu le green alors qu'il a fait deux coups extraordinaires, délicates.
On l'écoutera dans un instant, Mathieu.
Ouais, j'aimerais juste, parce qu'on l'a eu hier, encore une fois, dans notre WhatsApp, parce qu'on regarde avec passion et enthousiasme la fin des tournois, et tu faisais une remarque, Simon, de la victoire de Woods et, en 97, mais c'était pas du tout le même parcours. Et moi, ce qui m'a plutôt marqué, c'est que le 13 et le 15 étaient des opportunités d'eagle, c'est-à-dire que le quatrième jour, à un moment donné, quand t'étais pas tout à fait dans le truc et t'espérais que le mec derrière, il mette la balle dans l'eau, pendant que toi, t'allais choper eagle au 13, eagle au 15, et là, il y en a eu très très peu.
Oui, c'est...
Ouais, j'avoue, moi perso, c'est justement ces deux trous-là qui sont censés ajouter un peu au drama, c'est-à-dire que tu peux avoir soit quelqu'un qui enfonce le clou, un peu comme a fait Scottie Scheffler d'ailleurs, soit ça peut permettre de remettre un peu une pièce dans la machine. Et je trouvais que justement le 15 en particulier cette année, tu sentais que tout le monde serrait un peu tout ce qu'il pouvait pour pas faire d'erreur et prendre son petit par, tac-tac. Limite, tu sortais de là avec un par, t'étais content, alors que d'habitude, la grande majorité du temps, c'est un trou. Il faudrait que je regarde les stats, j'ai pas fait mes devoirs, j'avoue, mais il doit être un peu moins bien placé que les années précédentes au niveau stats.
Martin, tu gardes la main, tu vas balancer à ton tour un des participants de cette semaine.
Très étonnamment, je vais balancer Mathieu Pavon, mais évidemment de manière très positive. On en avait beaucoup parlé quand on a parlé lors des précédents podcasts du niveau de jeu de Mathieu. Et évidemment, moi, encore une fois, j'étais en mode
12e, on rappelle, 12e ex aequo, meilleur résultat d'un Français. Thomas Levé avait fini 13e et il finit une place devant lui. Aucun Français n'a jamais fait mieux.
Mais au-delà de ce résultat-là, moi, évidemment, j'attendais la confirmation du niveau que développe Mathieu Pavon depuis le début de l'année sur, pour moi, les tournois référence que sont les majeurs et en particulier Augusta. Eh ben, j'ai été plutôt très servi parce que clairement Mathieu a prouvé une fois de plus, ou a prouvé tout court en particulier sur ce niveau-là de jeu exigé, que lui, il était passé dans un autre univers, celui clairement du top niveau mondial. Quoi. Il joue avec Keegan Bradley, Tyrell Hatton, Ludwig Aberg et Seb Straka. C'est donc des joueurs de calibre Ryder Cup, de calibre mondial. Il en bat 2 sur 4 à la fin. Il bat Augusta d'entrée pour son premier tour en compétition sur le tracé. Tu l'as dit, Simon, il finit 12e. Et surtout, il s'est donc réinvité automatiquement pour l'année suivante. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est son attitude. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas sous-joué. Alors qu'Augusta, c'est un parcours qui peut te mettre très, très vite sous pression, te faire mettre un genou à terre en mode « Oula, attends, je suis quand même à Augusta, il ne faut pas déconner ». Et à l'image de ce qu'a fait Ludwig Åberg, d'ailleurs Mathieu est le deuxième meilleur débutant cette année derrière Ludwig Åberg au classement, et ça en dit long, il a prouvé une fois de plus que son attitude, elle est à la fois très simple, très sobre, mais hyper conquérante. Quoi. Il ne s'est pas caché, et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant dans le Masters de Mathieu Pavon. Quoi.
On fait réagir Fabien et Ramuncho sur la semaine de Mathieu Pavon dans un instant. Avant, on va écouter le français au micro de nos copains de Canal qui diffusaient le tournoi, évidemment.
Quel fabuleux endroit, quel fabuleux parcours. J'espère pouvoir le jouer encore une bonne dizaine d'années, ce serait incroyable. Comme je disais, très très content, surtout de mon jeu. Ça a été vraiment très solide, pas de double bogey, on en discutait avec Thomas tout à l'heure, ce qui est une très bonne chose ici. voilà, quelques petites erreurs peut-être qu'il faudra peut-être un peu d'apprentissage, on va dire. Et voilà, on va affûter le chipping, le wedging. Je pense que c'est peut-être ces choses-là qu'il a manqué à 2-3 endroits. Et on essaiera de revenir meilleur l'année prochaine.
Je rajoute, parce qu'on ne l'a pas dans l'extrait, qu'il a dit au micro des confrères de Canal, c'est dur. Il a fait cet aveu de, pas d'impuissance, parce qu'on le répète, il y en a tellement qui ont fait pire que lui. Il a dit, je joue très très bien, je tape la balle exactement comme je veux la taper, mais tu te fais punir par le parcours avec ce vent, machin. Tu es capable de te faire punir en jouant ton meilleur golf, quoi. Donc là, pour un apprentissage, il s'en tire quand même pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Puis il fait mentir des gens autour de cette table qui ne le voyaient pas il y a quelques semaines dans le gratin mondial. Je me souviens que j'étais un peu esselé.
Je crois que l'intitulé, c'était « Le golf français est-il au sommet du golf mondial ?»
Merci. Non, mais tu peux la tourner comme tu veux. Tu peux la tourner comme tu veux. Vous pouvez vous mettre... Merci. Mais c'est hallucinant ce que fait Mathieu. Et j'ai envie de dire que... on ne le voit même pas. C'est-à-dire que quand il part, moi je me souviens, tous les tournois, les majeurs, où j'ai vu des Français, chaque fois je n'osais pas regarder ou je n'allais pas sur Internet pour voir. Là... t'es serein, c'est-à-dire que à la limite tu vas même chercher est-ce qu'il a fait un birdie. Donc la donne a totalement changé. Le mec est 6e encore à la FedEx, le mec est 22e mondial et c'est pas fini. Et quand à la fin de son interview il dit je suis excité, le mec il sort d'un majeur, il sort d'Augusta où les conditions ont été terribles, et il dit mais je suis excité d'aller jouer le tournoi la semaine prochaine. Donc le mec, ça y est, il a fermé, et c'est là où il est très fort, et tu en as déjà parlé, Martin. Il a fermé, ok, Augusta, in the pocket, et je me projette. Et je trouve que ça fait partie de l'état d'esprit d'un champion qu'il est aujourd'hui.
Avant de te faire réagir, Amoucho, c'est très symptomatique de la dimension qu'il est en train de prendre au niveau du golf mondial. La réalisation, donc c'est CBS, je crois, aux États-Unis, mm-hmm. nous l'a montré au range, au practice, avant le départ. Et bon, on ne nous montre pas... tous les joueurs avant le départ, les Américains.
On t'a pas vu d'ailleurs.
Et il était.
Non, je me suis caché, moi. Je tapais pas de la balle.
Sélectionné dans les feature group, dans les parties à suivre.
Bien sûr.
Également. Donc ça, c'est vraiment symptomatique. Et je voudrais juste, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il n'a pas peur. D'où sa nouvelle dimension depuis le début de l'année. De dire, ben voilà, j'ai bien joué, j'ai bien tapé la balle. Tu vois, c'est pas de la fausse modestie, tu vois, qui pourrait dire, bon, je suis encore là, mais j'ai tout à prouver. Là, il est à sa place, je suis de ma place, je suis aux portes des 20 premiers mondiaux. Écoutez, les gars, ben, la semaine prochaine, je joue pour la gagne, etc.
Donc, je suis un monstre, avait-il dit.
Je suis un monstre.
Il l'a dit chez nous, ça, dans le practice. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu gagnes le Farmers? Je suis un monstre. Rapidement,
ouais,
Martin,
parce que
on a un dernier. Tout petit golfeur à balancer.
Oui, mais excuse, mais c'est vraiment ce côté, encore une fois, je reviens sur ça, ce joueur qui ne se cache pas. Et ne pas se cacher, ça veut aussi savoir dire quand on n'est pas bon, j'ai pas été bon, il faut que je fasse mieux. Et quand on a fait un bon Masters, comme ça a été son cas, de dire, ouais, j'ai fait un bon Masters, j'ai pas peur de le dire, c'est pas de la fausse modestie ou quoi que ce soit. Je trouve ça hyper intéressant, hyper cohérent, quoi.
C'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça en France, on a tendance à dire quand ça va pas, mais
t'as, t'as le premier qui fait ça, il te dit oui, et puis après il se crache, et après on dit, on l'encense, mais lui, il se crache pas, donc voilà.
Alors. Et oui, Ramuncho, il en reste un à balancer au cas où vous n'auriez pas deviné. Sur qui s'est porté ton choix, qui tu balances aujourd'hui?
Sur le tigre.
Ah, Simon, le gros chat.
Sur le tigre. Eh oui, écoute Simon, messieurs, toute cette table, si un jour on m'avait dit que je me poserais la question de savoir quel est l'intérêt de voir cette légende vivante participer à un tournoi et qui plus au Masters, j'aurais parié cher. Donc, j'étais le premier à clamer haut et fort qu'un tournoi sans le tigre n'avait pas la même saveur. Les deux premiers tours nous ont démontré que le jeu était encore là, que le monde du golf et moi le premier, on y étions aux anges. Soupçon d'inquiétude quand même, mais bon, le cut était franchi sans trop de problèmes.
24e d'affilée, record bonus, de l'histoire.
Le fameux record à la clé. Fantastique. Mais malheureusement, à partir de samedi, les observateurs, les fans sont davantage et uniquement sur « on veille un malade ». Sa démarche est scrutée, la façon dont il se penche pour ramasser sa balle, etc. etc. Non mais stop. Le jeu qu'il produit devient secondaire et ça n'intéresse plus personne. On excuse même le plus 10.
Non, mais là...
On excuse même le
putting. Attends, mais là, moi, j'en revanche, j'excuse pas. En revanche, moi, j'excuse pas du tout ce que tu viens de dire.
On excuse même le plus 10 indigne de son statut. Mais bon, ça nous rend très heureux parce qu'on va espérer, qu'il va être là le lendemain. Voilà, on est déjà très content qu'il ait terminé son parcours. Et on mise sur le fait qu'il soit le lendemain. On en est là, Fabien, on en est là.
Mais
donc, stop.
Non, je suis navré.
Pourquoi, je finis, pourquoi il s'impose de telles souffrances? Pourquoi ce spectacle?
Non, mais
les gars, c'est pathétique, mais c'est trop triste.
On laisse terminer.
C'est presque.
Non, mais justement, on se demande quand est-ce que ça va.
J'ai envie de lui dire Tiger, un géant.
Nous sommes mercredi.
Un géant comme toi. Voilà. Qu'est-ce que tu t'imposes? Voilà.
Mais
tu mérites tellement mieux comme sortie. Voilà.
Mais
toi
qui
a
mais,
ce
mais alors, c'est là. Alors, c'est là.
Le plus 10 dont tu parles, c'est le samedi.
Troisième jour.
Il joue plus 10. Mmh. Il termine à plus 16, rappelons-le. 60e et dernier du champ des joueurs qui a franchi le cut.
Mais je blâme pas son score. Je blâme le fait qu'il veuille encore concourir alors qu'il ne fait jamais de tournoi et qu'il veuille encore faire croire qu'il a sa place en tant que vainqueur d'un grand chelem.
On rappelle qu'en conférence de presse, c'est précisément ce qu'il a dit. Il a dit si je m'aligne au Masters, c'est que je pense que je peux gagner. Et il a précisé, en gros, si les planètes s'alignent, je pense que je peux décrocher
après,
un plus.
Après 36 trous.
Oui, après 36 trous.
Après 36 trous, il est quand même dans la course. Et je suis désolé, c'était très joli.
Pas autant que moi.
Non, c'était très joli. Bel après-midi. mais tu peux pas tirer sur Woods comme ça. C'est pas possible. On tire pas sur une ambulance, déjà, d'une part. Et je suis désolé, quand on voit ce que procure Tiger Woods, je l'ai dit tout à l'heure, le mec est le plus applaudi de tout le champ. Alors ok, c'est à peu près comme Scheffler, c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, Tiger, il en chie parce que le pauvre, physiquement, il a du mal et qu'il joue plus. Ouais aussi. Mais tant qu'il est là...
Ça te fait plaisir?
Non, mais moi, ça me fait... Eh ben, pardon. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de le voir avec son fils.
Ah, mais c'est autre chose. C'est autre chose.
Non, mais je t'ai laissé terminer ta belle litanie. J'aimerais bien que tu me laisses terminer mes arguments.
Le voir avec son fils, c'est parce que Charlie Woods est venu l'accompagner.
C'est magique, le môme.
Et lui donner des conseils sur son swing au practice avant le quatrième round.
C'est magique. Et je veux dire par là, ok, j'ai le même constat que vous, que c'est triste. Mais tant qu'il est là, moi, ma télé sera toujours allumée. Le mec, il est nulle part. Nulle part. C'est le mec, je suis persuadé, si on prend les images du jeudi au dimanche, je reste persuadé que c'est le mec que l'on a le plus vu. Alors qu'il... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait tout Tiger Woods qu'il est, aux abois, où on veut. Il fait toujours rêver, et moi, pardon, il me fait toujours rêver. Alors, il score pas bien, mais quelque part, on s'en fout. Tant qu'il est là, c'est bon pour le golf.
Martin, deux questions en une. Il score pas bien, est-ce qu'il a les moyens est-ce qu'il aurait dû faire mieux? Est-ce que tu préfères le voir terminer dernier du champ des joueurs qui a passé le cut à plus 16 ou rater le cut d'un coup? Je dis ça comme ça.
Étonnamment, je suis très partagé dans ma tronche. Étonnamment.
Putain, Martin, il est tard pourtant dans
le... je sais. Non, moi, le voir passer le cut pour la 24e année consécutive, ouais, depuis 97, il n'en a pas raté un. Je ne sais pas si... C'est totalement lunaire. Donc ça, rien que ça, ça valait le coup de le voir. Moi, ce qui m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait abandonner le troisième tour, tu vois.
C'est sûr.
Et c'est ça qui m'aurait fait mal au cœur, en fait. Le voir continuer, qu'il fasse What Mill et qu'il finisse dernier... j'ai pas envie de dire que c'est prévisible comme que Scotty Scheffler gagne le Masters, mais pas loin, malheureusement.
Tu as raison de le souligner, il a fait 4 tours.
Ça c'est plutôt encourageant. Après, c'est difficile de pas imaginer un Masters sans Tiger. Et moi, avoir des grandes gloires comme José Mario Lasabal qui passe le cut,
oui.
Tu t'en fous des scores qu'ils font, ils sont là les gars, t'as envie de les voir taper les coups de temps en temps, qui sont incroyables. Et lui, il y a toujours dans un petit coin de ma tête ce scénario de 2019. Où tu le vois revenir, tout le monde le croit fini, il est mort.
Il y a 5 ans, les gars. Il y a 5 ans.
Bien sûr, et évidemment, ce scénario-là, il est de plus en plus. Le gaz est de plus en plus faible sous la casserole. C'est évident, ça se voit. Tu vois qu'il souffle, tu vois qu'il se lève à 3 du mat pour faire 4 heures d'étirement, pour faire tout un tas de soins, pour éventuellement se dire qu'il va faire 80. Bon, il y a un moment, c'est un peu comme Rafael Nadal, t'as envie de dire, les gars. Vous êtes le meilleur du monde, vous êtes une légende, mais stop, quoi. Tu vois, donc c'est ça qui me fait un peu partager dans mon analyse.
Oui ou non, on va le voir à l'US, à l'USPGA, au British.
Ouais. Lui, en tout cas,
qu'on va le voir.
Il le veut, c'est ce qu'il dit.
Mais clairement. Moi, puis je pense qu'il s'est prouvé qu'il était capable physiquement de faire 4 tours.
Oui, effectivement, il y avait cette dimension. Ça fait très longtemps qu'il n'avait pas joué.
À quel prix ?
4 tours, nul doute qu'on aura l'occasion de reparler du Tigre qui a fait beaucoup de peine à ses nombreux fans lors de ce week-end au Masters. C'est passionnant, on va la suivre cette saison des majeurs, toute la saison dans le practice. Mais bon, de temps en temps, il faut bien s'entraîner. Comme à chaque épisode, on va filer sur le tapis.
Le practice RMC.
Je vous conseille, cette visée à pas à gauche du drapeau, aussi c'est des bacs à sable devant. Ou bien, ouais, c'est ça que j'ai. Voilà, elle part bien. Elle joue, super.
Le tips de Ramuncho.
La leçon du jour, évidemment, avec notre prof Ramuncho. À chaque épisode, vous pourrez recevoir un cours particulier. Vous avez un problème, vous avez besoin de conseils, vous vous posez des tas de questions. On est là pour vous. Enfin, Ramuncho est là pour vous et pour Ben, en l'occurrence. Ben, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, nous a laissé un message. Ben, qui nous dit « J'aimerais demander aux pros comment aborder un coup. Par exemple, un par 3 avec un bunker collé à gauche. » S'il joue un fade sens du trou ou draw à l'inverse du sens de jeu.
Ok, Ben.
Que faut-il conseiller à Ben ?
Ben avant tout, Ben, tu dois connaître, à mon avis, tes tendances de contact et de trajectoire. Bon, tendance de droite à gauche ou de gauche à droite. Et sur le parcours, Ben, dans ta préparation, et ça c'est extrêmement important, tu dois avoir, Ben, la bonne intention au bon moment. Du coup, excuse-moi pour le du coup. Tu vas t'adapter.
Ah oui, tu vas te faire gronder par Fabien.
La tendance du jour. Donc plutôt des balles de droite à gauche ou de gauche à droite, voire sans effet particulier. Tout ça pour te dire, Ben, que tu ne vas pas t'imposer un effet ou une trajectoire que tu ne produis jamais. Et du coup, te compliquer la tâche et te mettre bêtement en difficulté. Donc, quel est l'avantage de jouer ce par 3 en draw ? Donc, je rappelle, le droite à gauche, je rappelle. Eh bien, avec un bunker collé à gauche, c'est un peu plus sécurité, car tu vas t'appuyer sur la partie la plus large et accueillante du green, donc la partie droite. Maintenant, quel peut être le petit danger de l'attaquer en draw ? Bah, la balle peut fuser davantage sur le green et s'éloigner du drapeau, voire quitter ce green. Bon, autour du fade maintenant, donc de gauche à droite, je vais y arriver. L'avantage de jouer en fade, ce par 3, à l'inverse du draw, c'est d'attaquer en fade, te permettra à la balle de mordre, d'accrocher davantage le green et de se bloquer un peu plus facilement. En revanche, le petit inconvénient de la jouer en fade, dans ce cas de figure, tu mets forcément le bunker davantage en jeu puisque ta balle va démarrer à gauche du drapeau. Mais si tu es un joueur de fade, pas d'inquiétude, ta balle reviendra vers la droite, donc vers le green. Enfin, juste une précision, hein, si ce par 3 te permet de jouer un petit club, genre fer 9 ou wedge, je te conseille bien entendu de la jouer, Ben, directement sur le drapeau, sans chercher à créer d'effet particulier. Et donc, pour finalement, enfin, répondre à ta question, on y arrive. Personnellement,
merci, tout de même.
Je jouerai ce par 3 avec le danger à gauche, je le jouerai en draw, car sans raison particulière, je ne vais pas contrarier ni mon sens naturel du jeu, ni mon intention première. Et puis, juste un dernier conseil avant de nous quitter, Ben. Lors de tes entraînements, pour progresser en ton jeu et l'étoffer encore davantage, je te propose un très bon exercice qui consiste à faire des parcours en jouant tes attaques de par 3 ou de par 4 en variant les effets. Une balle en draw, la suivante en fade. Voilà, ce sera à la fois, je pense, amusant et surtout très formateur.
C'est très formateur lorsqu'on maîtrise le fade et le draw à la demande. Petite précision. Hein, pour,
oui, oui, oui.
Voilà. Fabien, Martin, vous, ce sont des effets que vous maîtrisez, que vous savez créer. Qu'est-ce que vous conseilleriez à notre avis et comment vous les attaquez, vous, ces par 3 ?
En fait, alors je ne les maîtrise pas, non, malheureusement. Non, mais en revanche, on s'appuie toujours sur la trajectoire avec laquelle on est les plus à l'aise. Et il n'y a pas un joueur de haut niveau qui ne s'appuie pas sur son coup fort. Et vous l'entendez en commentaire, et on le voit que certains d'entre eux la préfèrent la couper, parfois même fortement. On voit, d'ailleurs c'est assez drôle, mais il faut se méfier des prises d'angle de caméra qui peuvent exagérer. Mais on voit un Rahm, on voit un Scheffler, clairement, toujours essayer de la jouer. Et pendant des années, des décennies, on a dit que le Masters ne pouvait pas être gagné autrement que pour un, par un joueur de draw. Et donc aujourd'hui, clairement, ça prouve le contraire. Donc pour revenir sur les effets, et merci à Ramucho, parce que c'est important, faire de l'effet n'est pas forcément une erreur. Donc au contraire, il faut capitaliser là-dessus.
Martin.
Ouais, au-delà des effets, et alors moi je vais pas, je suis loin d'être professionnel de golf et encore moins professeur des professionnels de golf. Moi, ce qui m'a toujours intéressé stratégiquement sur les par 3 et en particulier sur des positions de drapeau un peu planquées près des obstacles, c'est plutôt de jouer des zones. C'est-à-dire de dézoner, d'oublier le drapeau et de se dire, ok, le danger, là, drapeau à gauche avec bunker ou à gauche, machin bidule. Moi, je suis un joueur de draw, donc si jamais j'en mets un tout petit peu trop, c'est la punition assurée. Donc, bah, tu fais un peu de marge, tu prends 5 ou 7 de marge à droite. Au pire, elle revient plein piquet si tu mets ton draw naturel. Et au mieux, elle fait ça. Et au pire, elle prend centre de green et t'as un putt de 8 mètres qui est quand même mieux que... plouf, double bogey, et on perd le Masters, quoi, tu vois ce que je veux dire ?
Non, pas du tout.
Bon, et surtout, on espère que Ben voit ce que vous voulez dire, et voit ce que Ramucho a voulu dire. Comme à chaque épisode, on essaye de progresser un petit peu, parce que même si c'était la question de Ben, ça aura très certainement servi à tous nos auditeurs. C'est l'heure de vous parler de notre jeu, ce cadeau exceptionnel à vous faire gagner. À l'occasion du Masters, il n'y en aura qu'un, hein, voilà, pas de Masters, mais de cadeaux. Le sac Masters Limited Edition.
My goodness.
Magnifique.
Celui qui a été utilisé par les joueurs lors de la semaine du
un
tournoi.
Un sac pour tous les joueurs. Ils sont très très forts.
Le sac de la marque, évidemment, d'une valeur de 1200 euros, hein, tout de même.
Non mais c'est un cadeau incroyable.
C'est exceptionnel. On rappelle toutes les marques, souvent profondes
des trucs
Masters
ouais.
Pour voilà, sortir
de tous les tournois majeurs, y compris chez les dames.
Une collector. Si vous souhaitez tenter de remporter ce sac, vous envoyez Golf au 732-16, Golf au 732-16. Évidemment, le vainqueur sera tiré au sort, tout ça, et comme on disait à l'époque, sous contrôle d'huissier, évidemment, hein, on ne fait pas les choses à moitié, ici. Oui, une précision ?
Non, c'était magnifique.
Mais vous n'avez, mais
moi,
vous n'avez pas le...
je peux jouer ?
Vous n'avez pas le droit de jouer, non ? Eh bien, merci, les copains, c'était un régal de débriefer ce Masters avec vous. Vous avez vu, je suis resté un petit peu plus sage que d'habitude, du coup, vu que...
t'as rangé ton frein toute l'année.
Non, de toute façon, il n'y a plus personne à convaincre avec Scotty Scheffler. Je crois, et peut-être que Jean-Christophe nous le confirmera, c'est peut-être le premier épisode de l'année où le mot Rory n'a pas été prononcé.
Tu sais ?
Rory.
Ah, personnellement, j'ai voulu épargner Martin.
Mon cœur saigne très fort, mais je n'en dirai pas plus.
Bon, on en reparlera évidemment. Fabien, Ramucho, Martin, merci beaucoup. Rendez-vous à l'épisode 12. On parlera du golf aux Jeux Olympiques. On verra si ça vous excite un petit peu ou si ça vous indiffère. On sera à moins de 100 jours des Jeux Golf et JO. Le mariage fonctionne-t-il ? On aura un invité exceptionnel, Paul Armitage, le patron du golf, justement pour les Jeux Olympiques de Paris, qui sera avec nous en studio. En attendant, bon golf à tous. Et comme dirait Jean-Christophe, que dirait Gardner Dickinson, on dit que le golf ressemble à la vie. Il ne faut pas le croire, le golf est plus compliqué. Allez, salut.
Le Practice RMC.